La Lorraine vue du parc. Biodiversité, milieu naturel, tourisme, culture, aménagement durable du territoire. En partenariat avec le parc naturel régional de Lorraine.
Vous êtes à l'écoute de la Lorraine vue du parc. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de notre émouvante terre de mémoire, parce que la nature reprend toujours ses droits, même après avoir été déchirée par les guerres. Ici, en Lorraine, les champs de bataille d'autrefois portent à jamais les stigmates des balles et des obus. Paysages et écosystèmes sont définitivement transformés pour renaître en écrins de verdure. Autant de joyaux naturels et patrimoniaux à explorer. Pour nous guider dans notre visite, on reçoit Sophie Giraud, responsable du service tourisme du parc naturel régional de Lorraine. Alors, la Lorraine, elle a vécu trois guerres, celle de 1878, celle de 14-18 et celle de 39-45. Quels sont les signes qui subsistent et qui méritent un détour, une petite visite ?
Oui, alors en effet, à côté du patrimoine culturel et historique que l'on peut découvrir sur le territoire du parc et qui par ailleurs est très riche, on a en effet de nombreux vestiges des différents conflits qui ont eu lieu en Lorraine et que l'on retrouve sur le territoire du parc, puisque on se trouve finalement à un carrefour entre sur le sillon mosellan et entre les villes de Metz et de Nancy. Différentes thématiques peuvent être découvertes par le visiteur autour de la guerre de 1870, par exemple, puisque sur le secteur de Gravelotte, Vionville, Rezonville, donc à l'ouest de Metz, se sont déroulées les plus importantes batailles qui ont conduit à la défaite, puis à l'annexion de cette partie de la France en 1870. Donc autour du musée de Gravelotte, qui a été entièrement restauré par le conseil départemental de la Moselle et qui est vraiment un point central dans lequel on peut découvrir de très riches collections d'uniformes, d'armes, mais aussi qui présente en fait le déroulement de ces journées du mois d'août 1870 et puis surtout derrière quelles ont été les conséquences de cette annexion, à la fois pour les populations, mais aussi pour le développement économique, industriel de la Lorraine, puisque tout ça a eu de très importantes répercussions que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc, le musée de Gravelotte est, je pourrais dire, le point central de cette thématique. Mais ensuite, sur le territoire, on a aussi des espaces et des sentiers qui ont été aménagés et qui permettent de comprendre les mouvements de troupes, puisque à cette époque, on était encore beaucoup basé sur les mouvements de troupes, l'utilisation des reliefs et du terrain pour surprendre ou combattre l'ennemi. Donc, sur le secteur de Gravelotte, Rezonville, Vionville et Gorze, donc plutôt côté mosellan, on a un premier parcours qui s'appelle les Sentiers de la mémoire 1870, qui permet, en s'appuyant sur les monuments qui ont été érigés après la bataille, de comprendre le positionnement des différentes armées et les différents temps forts de la bataille.
Donc c'est très
les mouvements de troupes, voilà. C'est très intéressant puisque on flirte aussi avec l'utilisation du paysage, l'utilisation du relief. Donc c'est une boucle que l'on peut pratiquer à pied, en vélo ou même encore à cheval. Une seconde proposition d'itinéraire se situe sur le secteur plutôt Meurthe-et-Mosellan, donc autour de Mars-la-Tour, Bruville et Ville-sur-Iron. Et là, c'est une approche un petit peu différente puisqu'en fait, il s'agit d'une muséographie de plein champ. Donc, on retrouve des silhouettes dans la nature qui évoquent alors à la fois les temps de bataille, mais aussi la vie des populations civiles, donc le déplacement des civils, puisque ça avait déjà été le cas, et aussi la vie du soldat, les soldats blessés, leur déplacement sur l'arrière-front, etc. Dans le secteur de Mars-la-Tour, par exemple, on peut découvrir l'église commémorative qui est aujourd'hui entièrement ouverte, enfin ouverte tous les jours, donc à l'intérieur de laquelle on trouve de nombreuses plaques rappelant le nom des soldats qui ont combattu et qui sont décédés sur le champ de bataille. Et à partir de là, il y a une très jolie balade à faire le long de l'étang de Mars-la-Tour et qui conduit à une station qui est organisée sous la forme d'une gare et qui évoque en fait les différents conflits au travers du 19e et 20e siècle, qui propose derrière encore une petite promenade à travers les champs et la campagne de Mars-la-Tour.
Et pour 14-18, parce que le territoire a aussi été beaucoup marqué par la guerre de 14-18, on peut faire un détour par le saillant de Saint-Mihiel ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le territoire du parc est particulièrement marqué par le saillant de Saint-Mihiel. Donc qu'est-ce que c'était que le saillant de Saint-Mihiel ? En fait, c'était une avancée des troupes allemandes dans les lignes françaises. Cette avancée s'est produite en 1915, donc au début de la guerre. Et en fait, pendant les années qui ont suivi, jusqu'en 1918, date à laquelle ce saillant a été réduit par les troupes américaines, les Français et les Allemands n'ont eu de cesse d'essayer pour les uns de le réduire et pour les autres de le maintenir. Donc en fait, c'est une ligne de front qui, grosso modo, part de Verdun jusqu'à Saint-Mihiel, en suivant les côtes de Meuse, et de Saint-Mihiel jusqu'à Pont-à-Mousson. Tout au long de cette ligne de front, notamment entre Saint-Mihiel et Pont-à-Mousson, on va retrouver de nombreux villages détruits, qui ensuite ont été reconstruits dans les années 20. Et certains de ces villages détruits, d'ailleurs, sont aujourd'hui aménagés, les ruines sont aménagées pour permettre aux visiteurs de comprendre comment étaient organisés les villages auparavant, quelles ont été les conséquences de la guerre sur ces villages et parfois pourquoi ils ont été reconstruits, pas forcément toujours
au
même endroit, voilà, pour des raisons diverses et variées. Donc ça, c'est plutôt sur cette partie entre Saint-Mihiel et Pont-à-Mousson. Le long des côtes de Meuse, effectivement, on trouve des sites assez connus du grand public, comme le site des Éparges, qui fut un lieu de combat très intense parce que c'est un point point stratégique. Donc les deux armées ont sans cesse essayé de la prendre, la reprendre, voilà. Donc ce point stratégique a donné lieu à ce qu'on a appelé une bataille des mines, c'est-à-dire que les troupes ennemies essayaient de creuser la côte, remplissaient ces galeries qui étaient creusées d'explosifs et faisaient exploser pour que les troupes qui étaient au-dessus soient blessées, soient ensevelies.
S'effondrent.
Voilà. Donc on peut voir aujourd'hui, par exemple, sur le site des Éparges, les traces de ce qu'on a appelé ces entonnoirs, et qui aujourd'hui, la nature reprenant ses droits, accueille notamment des espèces d'orchidées ou des batraciens qui sont tout à fait intéressants.
Voilà. Et pour en savoir un petit peu plus sur ce conflit de 14-18 sur notre territoire, je vous invite à aller faire un petit tour du côté du fort de Liouville ou du musée de Marbotte. Monsieur Bouchy, trésorier de l'association qui gère ces deux lieux, nous en parle parfaitement. Monsieur Bouchy, bonjour, vous êtes le trésorier du musée de Marbotte. Alors tout d'abord, où est située Marbotte ?
Marbotte est située sur le front de 1914 à 1918, près d'Apremont. C'est un petit village tout près d'Apremont qui était vraiment la ligne de front du saillant de Saint-Mihiel. Le saillant de Saint-Mihiel qui a été conçu par les Allemands, enfin qui a été pris par les Allemands dès le début de septembre 1914. Donc Marbotte est un tout petit village qui fait partie de la commune d'Apremont.
D'accord.
C'est une commune fusionnée de quatre villages, donc Liouville, Saint-Agnan, Marbotte et Apremont.
Voilà.
Donc, ce Marbotte est un des quatre villages de la commune d'Apremont.
Et alors, donc, sur ce territoire, on trouve aussi le fort de Liouville.
Le fort de Liouville, qui est sur le même territoire, qui est sur le village de Liouville, puisque maintenant, on ne peut plus parler de commune, mais de village.
Oui, le village.
Donc, le village de Liouville, qui fait partie d'Apremont aussi, maintenant, d'ailleurs.
Donc c'est une destination qui mérite vraiment le détour puisqu'on va pouvoir découvrir à la fois le saillant de Saint-Mihiel, le fort de Liouville et le musée de Marbotte. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le musée de Marbotte ?
Le musée de Marbotte au départ c'était un centre de documentaire. En 1996 on a créé un centre documentaire, c'est-à-dire qu'il y avait c'est un bâtiment communal, donc la mairie école de la commune que la commune nous a laissé.
D'accord.
Qu'on loue pour le franc symbolique.
Mm-hmm.
Et dans ce bâtiment, on a installé une exposition. Il y avait à l'époque 55 mètres linéaires d'exposition de documents, de photos, de cartes, d'aquarelles, enfin un tas de choses comme ça, documentaires. Et puis en 2000, quasiment en 2000, on a récupéré la collection de Jackie Brunto.
D'accord. Et de quoi est constituée cette collection ?
Cette collection est constituée d'armements, de costumes, d'un tas de pièces qui sont relatives à la guerre, que ce soit des pièces de cuivre fabriquées par les poilus, des tas de choses comme des képis, des insignes, des décorations, et puis beaucoup de photos aussi. Donc cette collection, c'était Jackie Brunto qui était, lui, à l'origine de la SFL, qui est l'association de sauvegarde du fort de Liouville.
D'accord.
Donc, la SFL s'occupe donc et du fort de Liouville et du musée de Marbotte.
D'accord. Donc c'est la même association qui gère
association,
les deux lieux.
Oui.
Et si on veut visiter le musée de Marbotte, il y a des horaires auxquels le musée est ouvert ?
C'est ouvert tous les troisièmes dimanches du mois, toute l'année, comme le fort de Liouville.
D'accord.
Le fort de Liouville est ouvert systématiquement tous les troisièmes dimanches du mois. Et en plus, on peut ouvrir sur rendez-vous. Donc là, après, c'est à la demande. Quand on a des écoles, quand on a
des groupes qui sont constitués,
quand on a des disponibilités des gens. Bon, quand c'est des écoles, on arrive à trouver un guide qui peut assurer une visite soit du musée, soit du fort, ou des deux simultanément, ou à la QLE, hein, si c'est possible. Et autrement, même pour des particuliers, bon, ben, on essaye de se rendre disponible pour pouvoir faire visite.
Pour organiser les visites.
Oui. Donc, tous les dimanches d'été, de la saison d'été, qui est à partir de maintenant, quoi, du mois de juillet jusque septembre, on essaye d'ouvrir chaque dimanche.
Chaque dimanche. Et c'est de quelle heure à quelle heure, généralement ?
Le fort, c'est de 9h à 17h.
De 9h à 17h, et le musée avec...
Et le musée, c'est à peu près la même chose.
À peu près les mêmes choses. Et si on veut avoir plus d'informations pour nos auditeurs, ils peuvent appeler un numéro en particulier pour avoir de l'information ou trouver de l'information sur un site internet ?
Oui, on trouve sur le... Bah, si vous tapez Fort de Liouville...
Fort de Liouville, on trouve...
Vous allez tomber sur un site qui donne toutes les informations... Avec un numéro de portable, avec les horaires ou
les horaires aménagés.
Tout ce qu'on peut faire pour visiter. Bon, en plus, les gens qui viennent dans le secteur peuvent visiter ce qui se trouve sur Apremont, la Croix des Redoutes, la Tranchée de la Soif qui est un peu au-dessus.
Oui.
C'est des sites qui sont sur place et qui sont libres. L'église de Marbotte, évidemment, l'église de Marbotte qui est un édifice un peu particulier avec de belles choses à voir. C'est très petit, mais c'est le
seul bâtiment. Ça mérite le détour.
Seul bâtiment qui n'a pas été détruit en 1914 dans le village et dans lequel les poilus étaient stockés, si on peut dire, en attendant leur sépulture.
Oui.
Donc ça, c'est ouvert. On essaye que ça soit ouvert tous les jours, pendant la journée, disons.
Bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et puis on invite nos auditeurs à se connecter sur Internet et à taper dans leur moteur de recherche Fort de Liouville pour arriver sur votre association et
oui.
Vous contacter pour pouvoir visiter le musée, le fort et tout ce territoire riche de mémoire.
Et en plus, oui, le territoire, bon, il nous arrive d'accompagner aussi les gens. S'ils nous le demandent, bon, on les accompagne en même temps sur les sites.
Pour faire une visite thématique.
Sites à l'extérieur.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bouchy. donc beaucoup de lieux de mémoire à découvrir sur le territoire du parc naturel régional. Toutes ces informations sur les lieux du tourisme de mémoire, vous allez pouvoir les retrouver sur le site internet du parc www.pnr-lorraine.com, mais aussi et surtout sur la page dédiée du comité régional du tourisme www.tourisme-lorraine.fr/voyage/parc naturel régional de Lorraine. Là, vous découvrirez tout un ensemble de destinations dont on vous invite à découvrir les lieux et ce qu'ils sont devenus sur ces pages. On vous souhaite un excellent été et à très bientôt.
C'était la Lorraine vue du parc avec le parc naturel régional de Lorraine.